France Musique.
Igor Stravinsky, chronique de sa vie, troisième épisode, les années de pèlerinage.
Entre-temps, j'étonne aussi un soldat qui rentre chez lui. Qu'il a marche depuis longtemps déjà. A beaucoup marché. S'impatiente d'arriver parce qu'il a beaucoup marché.
Après le scandale du 29 mai, les soirées suivantes du Sacre du Printemps se passent dans un calme relatif. Une représentation à Londres le 11 juillet rencontre même un joli succès, mais Igor ne peut guère en profiter. Trois jours après la création, il est tombé malade d'une fièvre typhoïde contractée en mangeant trop d'huîtres un mois sans air. Il doit passer 6 semaines dans une maison de santé de Neuilly. Ravel, Delage, Schmitt viennent le visiter, Diaghilev presque tous les jours, mais sans entrer dans la chambre, tant est grande sa peur de la contagion. Très gentiment, Madame Debussy téléphone à Madame Stravinsky pour lui proposer d'utiliser leur voiture, car Debussy a une voiture en 1913, c'est une rareté. Une fois remis, Igor se retire dans sa datcha d'Oustilug. Au village, il note quelques chants populaires qu'il réutilisera plus tard. Il se replonge aussi dans des pièces plus ou moins improvisées jadis qu'il met au propre sous le titre « Souvenirs de mon enfance ». On y croise une pie et un corbeau. Beaucoup de volatiles dans tout cela. De l'oiseau de feu au coq de renard, en passant par le canard et le moineau des quatre chants russes, la musique de Stravinsky est une vraie volière. À peine rentré à Claran pour l'hiver, le tout nouveau Théâtre Libre de Moscou propose à Igor de monter son opéra, le Rossignol. Tiens, encore un piaf. Rossignol dont la composition avait été interrompue par celle de l'Oiseau de feu. Notre compositeur hésite. Depuis qu'il a achevé le premier acte, 4 ans plus tôt, son style a énormément évolué. Mais il finit par se laisser convaincre. Après tout, l'œuvre elle-même alterne deux lieux que tout oppose. Une forêt idyllique dans le premier acte, ce sera le Stravinsky ancien. Une étrange cour de Chine pour les deux suivants, ce sera le Stravinsky nouveau. Tout l'hiver est occupé par la composition du Rossignol, que même la fermeture prématurée du Théâtre Libre ne suffit pas à interrompre. Diaghilev saute d'ailleurs sur l'occasion, c'est lui qui montera finalement le premier opéra de Stravinsky lors de sa prochaine saison. Avant cela, le 5 avril 1914, Pierre Monteux dirige le Sacre du Printemps en version de concert, pour la première fois sans ballet donc, au Casino de Paris. Le chef raconte.
L'année suivante, je dis à Stravinsky, écoutez, on n'a rien entendu de votre musique. Après tout, nous ne savons pas si c'est à la musique que le public en avait, ou au décor, ou au ballet, ou on ne sait pas quoi. Laissez-moi jouer la musique toute seule, on va bien voir ce que ça fait. Mais naturellement, me dit Stravinsky, c'est une symphonie. Alors j'ai joué la musique toute seule, de là est parti le sacre. Tous les musiciens de Paris sont venus pour entendre, même Saint-Saëns est venu pour entendre le sacre du printemps au concert, n'est-ce pas ? Et alors ça a été un succès énorme, immédiatement. Et de là est parti le succès de ça.
Pierre Monteux n'exagère pas, c'est le concert de la réhabilitation. La salle est bondée, le succès est renversant. Igor commente. À la fin de la danse sacrale, tout le public bondit sur ses pieds et ce fut une ovation. Je suis allé sur scène saluer Monteux qui, en âge, me gratifia de l'accolade la plus salée de ma vie. Les coulisses furent prises d'assaut et hissées sur des épaules inconnues, je fus porté en triomphe jusque sur la place de la Trinité. L'inscription de l'œuvre dans les programmes de concerts symphoniques ne remonte pas à la création du ballet, mais bien à cette soirée du 5 avril. Le 26 mai, lors de la même saison des ballets russes, le Rossignol est créé également au Palais Garnier et sous la direction de Monteux. Décors et costumes somptueux, dira Igor, d'Alexandre Benoît. Mais le spectacle est décevant. Il faut dire que l'œuvre a de quoi décontenancer avec deux parties dans deux styles musicaux complètement différents. En 4 ans, Stravinsky est passé dans un autre monde. Ce Rossignol en est le témoignage et la victime. De plus, Diaghilev l'a fait tourner opéra-ballet, avec des danseurs mimant les rôles et des chanteurs dans la fosse. Enfin, après le sacre, comment ne pas décevoir un peu, même avec une musique magnifique ?
Voix Oh,
Quelques semaines plus tard, lors de la création du Rossignol à Londres, Igor entend les cloches de la cathédrale Saint-Paul. Elle lui donne l'idée des noces. Il assiste aussi à une démonstration de piano à rouleau, le Pianola, modèle Eolian, technologie toute nouvelle qui l'intrigue et va le faire beaucoup réfléchir. Ce qui est significatif quand on se souvient que le Rossignol raconte justement l'histoire d'un oiseau chanteur, un peu magique mais bien réel, que l'on remplace par un oiseau mécanique. Le prolongement du vivant par la machine, voilà un thème sur lequel Stravinsky aura un peu trop d'avance sur son temps. Revenu en Suisse, Igor écrit trois pièces pour quatuor à cordes qui chahutent un peu ce genre très sérieux. Il demande par exemple à l'altiste de tenir son instrument comme un violoncelle. La deuxième pièce, excentrique, est inspirée par Little Teach, un comique britannique qui mesurait 1m37, avait 6 doigts à chaque main et fut l'un des premiers clowns du XXe siècle. Quant à la troisième pièce, Cantique, Stravinsky la jugera l'une des meilleures musiques que j'ai jamais écrites. Même si la création à Chicago laisse les auditeurs perplexes, on peut là-dessus être d'accord avec lui.
Thank you.
Les trois pièces pour quatuor à cordes d'Igor Stravinsky par l'orchestre de chambre Orpheus.
C'est l'été sur France Musique. Igor Stravinsky, chronique de sa vie, Lionel Esparza.
À l'été 1914, Igor fait un bref séjour à Oustiloug. Ce sera le dernier en Russie avant presque un demi-siècle, même s'il ne le sait pas, bien sûr. Mais hasard ou providence, il en rapporte une compilation de chants traditionnels et un recueil des contes populaires russes d'Alexandre Afanassiev. Les deux vont directement, mais discrètement, nourrir les œuvres des prochaines années. L'été 1914, c'est aussi le temps des grandes déclarations. Au mois d'août, la guerre éclate alors qu'Igor est en Suisse. Sa tuberculose chronique lui épargne les obligations militaires. Comme tout le monde, il pense que l'affaire sera réglée en quelques semaines. Il s'installe donc temporairement à Clarens, chez le chef Ernest Ansermet, dont il a récemment fait la connaissance. Un temporaire qui va durer. Avec la guerre, Igor va en venir à s'installer en Suisse, au cœur de l'Europe, mais à l'abri des bombes, avec de brefs séjours cependant en Italie ou en Espagne. Ses droits d'auteur sont bloqués, les concerts réduits et ses revenus ne lui parviennent plus de Russie que de manière épisodique. Il doit subvenir quand même aux besoins de sa famille dans un contexte contraint. Après les fastes des ballets russes, on entre donc dans une ère de formation restreinte et de style épuré. Pourquoi, à propos, avoir appelé cet épisode « Année de pèlerinage » ? Clin d'œil à Franz Liszt, bien sûr, et à ses années suisses, mais surtout parce que cette période, très riche, va être aussi pour Stravinsky un moment de voyage dans de nouvelles formes, dans de nouveaux styles, dans les souvenirs d'une enfance qui apparaît autant comme un refuge imaginaire que comme un inépuisable réservoir d'idées. Exemple avec « Pribaoutki », des comptines qui alternent l'inquiet, le ludique, le farceur et le rêveur. Automne 1914, alors qu'Igor vient de se lancer dans son grand projet des noces, il fait un saut d'une quinzaine de jours à Rome pour voir Diaghilev, dont la situation n'est pas brillante. L'activité des ballets russes est interrompue, la troupe dispersée, les finances suspendues à l'effort de guerre. Ça ne l'empêche pas de recevoir, dans un bel appartement, entre autres Prokofiev, avec lequel Igor se lie plus profondément qu'il ne l'avait fait jadis en Russie. Lors de ce séjour romain, Stravinsky montre à Diaghilev des petites pièces qu'il vient d'écrire pour deux pianos, avec en guise de polka un hommage à son ami, décrit comme directeur de cirque, en frac, le haut de forme sur la tête, claquant du fouet pour dresser une écuyère sur son cheval. Toute allusion au rapport entre les deux hommes ne serait que pure coïncidence. Diaghilev, pour cette fois, ne s'offusquera pas. En Suisse, les conditions pratiques du travail s'avèrent difficiles. Igor a besoin d'un piano pour composer, et dénicher un piano en temps de guerre relève du parcours de combattant. Cet hiver-là, Ernest Ansermet lui présente un écrivain, il est suisse, Charles Ferdinand Ramu. Rencontre importante parce que cette amitié va donner au moins deux œuvres essentielles, Renard et l'histoire du soldat. Mais aussi parce que Ramu, écrivain précieux, va témoigner dans un livre de souvenirs de cette amitié improbable. Entre le paysan protestant de souche vaudoise et le citadin grandi dans les coulisses du théâtre impérial, ça n'aurait jamais dû prendre. Au printemps 1915, Stravinsky s'installe à Morges avec femme et enfants. Il y restera 5 ans, villa Rogivu, avenue des Paquis. C'est là qu'il acquiert son premier gramophone. Très au fait des technologies de communication moderne, il prend le téléphone, ce qui étonne Ramu, trop pauvre pour se le payer. Ce n'est pas que Stravinsky soit riche, mais il aime le luxe. Bientôt, Diaghilev vient emménager à quelques kilomètres et toujours très actif organise deux concerts de gala à Genève puis à Paris, où Igor dirige pour la première fois en public. Le concert rapporte une belle somme, 400 000 francs or, nous dit le compositeur tout heureux. Ça va permettre de voir venir. Lors de ce séjour parisien, Igor retrouve la princesse de Polignac, Winaretta pour les intimes, l'une de ses plus importantes mécènes. La princesse lui propose de monter dans son hôtel particulier, quand la guerre sera terminée bien sûr, une petite pièce pour théâtre de chambre. Ce sera Renard, histoire burlesque inspirée d'Afanassiev, auquel Stravinsky songe depuis quelque temps déjà. Une histoire à la ferme. Le renard tente de s'emparer du coq en se déguisant en nonne puis en épicière. Le chat et le bouc tentent de l'en empêcher, puis le tuent en une sorte de meurtre rituel bouffe. Renard, c'est un peu un sacre de basse-cour. Thank you.
cassera le vélo, on vous lui plantera le couteau.
Où ça, où ça, où ça, où ça, où ça, où ça.
Et tu rentres très vite, vite, ça va là, voilà.
Où ça, où ça, où ça, où ça, où ça, où ça.
Où c'est le petit couteau, le petit couteau, on l'a. Et la corde aussi, on l'a. Et d'ici, on verra. Et d'ici, on verra.
Où ça, où ça, où ça, où ça, où ça.
On l'a tapé encore pour ça. On l'a et d'ici, on verra. Et d'ici, on ne le comprendra.
Il faut traduire en français le conte d'Afanassiev. Igor choisit pour cela son nouvel ami. Tous les jours, Ramu fait le trajet jusqu'à la maison de Morge. Stravinsky traduit du russe, mot à mot. Le poète donne à la chose la forme d'un livret, littéraire, mais pas trop. On s'amuse beaucoup. « Je me sentais musicien parmi les instruments de musique », dira l'écrivain. Il faut dire qu'Igor a découvert, dans un restaurant de Genève, un cymbalum joué par un Hongrois. Il s'est passionné pour l'instrument au point d'en acheter un et d'apprendre à en jouer. Ça occupe. Il l'introduit dans Renard. Avec Igor, tout fait profit, surtout en temps de guerre. Il est passionnant, et émouvant d'ailleurs, de lire les souvenirs de Ramu sur Stravinsky. D'abord, ils sont écrits dans une langue admirable, et puis ils témoignent de la fascination d'un artiste pour un autre. Ramu décrit par exemple la table de travail du compositeur, qui ressemble, je cite, à la tablette à instruments d'un chirurgien. Les bouteilles d'encre, de plusieurs couleurs, bleu, vert, rouge, noir, chacune son rôle pour écrire les notes, le texte, les barres de mesure. Et puis il y a les outils de cet artisanat. Gomme, règle, grattoir, canif, tire, ligne. Et déjà l'instrument à roulette dont Stravinsky est l'inventeur qui lui permet de tracer les portées d'un seul geste. Ramu écrit comme un art poétique « L'ordre véritable n'est pas ennuyeux parce qu'il ne va pas contre la vie et que bien au contraire, il l'exalte et l'intensifie. » Ramu raconte encore les longues discussions, Stravinsky parlant de Tolstoï, de Gogol, tandis qu'à côté la nourrice, Bertouchka, prépare les boulettes de viande et la soupe de betterave. Une sorte de petit paradis domestique au sein duquel médite le divin artisan. Bon, sans doute Ramu idéalise passablement la plénitude, mais c'est beau.
Tu verras comme c'est servi, c'est pas comme ici. Il y a du beurre sur la table. Seigneur, prends sous ta garde, Séraphine, ma cousine, ma bonne marraine Catherine, tous les saints, André, mon parrain, Adeline qui fait le pain. Qui travaille au moulin, Félicie, Félicie, Denis, Denis,
on chante toute la jolie chanson que voilà, tout, tout, tout. ne chante pas quand on ça tout, tout. Pour l'amour de vous, on la chante tout bas, on la chante tout, tout, tout. On la chante tout, 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 pour l'amour de vous. Où est-elle, est-elle chez elle? Où est-elle chez elle? Où est-elle, madame, 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 madame? Est-ce qu'on pourrait lui parler? Pourrait-on parler à cette voix? On vous chante tout, tout, pour l'amour de vous. La première, c'est mademoiselle Torchon. La deuxième, c'est mademoiselle Torchon. La troisième, mademoiselle Torama. Et la quatrième, mademoiselle Fille de Pointe. Jolie chanson pour vous, tchou, tchou. On la chantera jusqu'au bout, tchou, tchou. Pour l'amour de vous, on la chante tout bas, on la chante tout bas. Où est-elle, que fait-elle, où est-elle, que fait-elle, où est-elle, et que fait-elle, où est-elle, madame Renard Bleton, la
voix. Qu'est-ce que c'est que cette chanson qui est là et que me donne?
Mon air est belle et tout mer. On est les belles qui d'affaires, et ce qu'on a sous son manteau, c'est un grand couteau.
Oh, vous me cherchez mes yeux qui, gardez vos paix, gardez vos paix.
Pour les petits pieds qui guérissent, pour les plus grands peines et pas trop.
Oh, vous m'étiez si léger, ah, pour que gardez vos paix, mes pieds, je fais trop vous servir.
Dernière mesure de Renard d'Igor Stravinsky dans la version signée Charles Dutoit.
C'est l'été sur France Musique. Igor Stravinsky, chronique de sa vie, Lionel Esparza.
Mais 1916, Igor est à Madrid pour retrouver Diaghilev. Il découvre l'Espagne, qu'il adore, achète des disques de musique de corrida ou de chansons gitanes et voit pour la première fois un film de Charlot. Diaghilev n'est pas là pour rien. Il fait représenter au Teatro Real l'Oiseau de Feu et Petrushka. À l'occasion, on rencontre le roi, Alphonse XIII, et les deux reines, la reine-mère, Marie-Christine, et la princesse Victoire Eugénie. Le compositeur est fasciné par l'intensité ardente, mystique même, du catholicisme espagnol. Bien différent, écrit-il, du catholicisme romain, autrement plus austère et immobile. Il en ramènera une pièce, Madrid, qui n'est pas du tout d'espagnolade. Premier août 1916, Stravinsky achève Renard et se remet immédiatement aux noces. Mais un peu avant Noël, une névralgie intercostale le cloue au lit pour des semaines, quasi paralysé des deux jambes. C'est alors que Diaghilev lui suggère d'arranger des extraits de son opéra, le Rossignol, pour orchestre seul. L'impresario insiste même pour en faire un ballet, ce qu'Igor refuse d'abord catégoriquement. Ce sera un poème symphonique. En cet hiver arrivent aussi des nouvelles de la lointaine patrie. Février 1917, la révolution russe renverse le régime tsariste. Stravinsky ne le sait pas encore, mais il va bientôt perdre la totalité de ses biens restés en Russie et de ses revenus aussi, après que son éditeur aura été nationalisé par les bolcheviks. C'est donc avec son grand œuvre du moment que va pour quelques mois se tisser son rapport, esthétique et imaginaire, avec la mère Russie.
Thank you.
Noce est l'œuvre de Stravinsky qui a connu la genèse la plus longue et la plus complexe. Bien que la première idée lui soit venue dès 1914, la création n'eut lieu que 9 années plus tard. C'est une pièce fondamentale, autant que le sacre sans doute. À nouveau un rituel, un mariage cette fois, sur des bouts de texte et de chants montés par le compositeur lui-même, avec, je cite, « la liberté complète d'en user comme il me conviendrait ». Pas d'action à proprement parler, mais les principaux épisodes d'un cérémonial auquel participe toute une communauté. Au résultat, pas vraiment un ballet, non, mais une cérémonie scénique, comme l'appellerait Igor. Musicalement, le matériau est plus élémentaire que celui du sacre. Des rythmes répétés, de la pulsation, des mélodies modales, incantatoires, des timbres toujours plus dépouillés. Étrangement, si le sacre a marqué son temps, il a peu influencé les compositeurs. Trop singulier, inimitable. Les noces, en revanche, ont beaucoup essaimé. Karl Orff, Benjamin Britten, Francis Poulenc, entre autres, s'en souviendront. Les noces se sont achevées le 4 avril 1917. Enfin, la partition piano, pas l'orchestration. Stravinsky songe d'abord à un immense effectif de 150 musiciens. Il abandonne vite pour envisager un orchestre plus réduit, puis un ensemble d'instruments mécaniques dont il finit par se convaincre qu'il serait impossible à synchroniser. Mais il s'obstine dans cette direction, travaillant longtemps en pure perte, ce qui est rare chez lui. De fourvoiement en hésitation, il faudra attendre 1923 pour que l'œuvre trouve sa formation définitive grâce à l'indispensable Diaghilev. Laissons donc les noces pour l'instant, on en reparlera. Thank you. printemps 1917, Stravinsky part pour Rome, où Diaghilev a réussi à monter un spectacle autour de l'Oiseau de feu. À peine Igor est-il descendu du train que son bouillonnant ami lui saute dessus. Après les événements de février, on ne peut plus jouer l'hymne « Dieu protège le tsar », comme d'habitude, en ouverture d'une soirée des ballets russes. Pourquoi ne pas le remplacer par le chant des bateliers de la Volga ? Mais il faut un arrangement. Dans la nuit, Stravinsky écrit une instrumentation, austère, presque sinistre. Pas de quoi enthousiasmer le public. Diaghilev s'en servira d'ailleurs le moins possible. À Rome, Stravinsky retrouve tout l'entourage de Diaghilev. Massine, Bakst, Cocteau. Il rencontre aussi Pablo Picasso, venu préparer son futur ballet avec Satie, Parade. Entre Stravinsky et Picasso, l'accord est immédiat. Même degré d'intelligence, même volonté de repousser les limites, même appétit de nouveauté, même obsession pour les rites, pour l'originel, même recherche de soi à travers des avatars. Bref, les deux hommes s'adorent. Depuis Rome, toute cette petite société se rend à Naples pour accompagner Bakst et Massine qui y donnent leur ballet, les femmes de bonne humeur. Picasso et Stravinsky se promènent pendant des heures dans les rues de la ville. C'est là que le peintre exécute le premier des trois portraits qu'il fera du compositeur. Portrait que les autorités militaires confisquent lorsqu'Igor essaye de rentrer en Suisse. Avec ses angles et ses lignes droites, ce n'est pas un portrait, lui dit-on. Ce sont des plans. Or, en temps de guerre, des plans, c'est suspect. Le portrait lui reviendra des semaines après par la valise diplomatique. Au retour, Igor apprend que sa nourrice adorée, Bertha, qu'il aimait comme une seconde mère, est morte pendant son absence. Il la pleure plus que sa propre mère 20 ans plus tard. On ne s'attardera pas sur le sujet, sinon pour remarquer que Bertushka aurait été la première affection vraie de Stravinsky. Est-ce un hasard ? C'est à ce moment-là qu'il achève ses trois histoires pour enfants, et ce fameux « Tilimbom » comme une comptine folle d'enfants furieux. Un malheur ne venant jamais seul, le frère cadet d'Igor, son préféré, Goury, décède quelques mois après du typhus. Tout en cette année 1917, révolution et deuil, tout semble vouloir éloigner ce grand cosmopolite de sa Russie natale. Il n'y reviendra d'ailleurs qu'en 1962, dans des conditions qu'on évoquera une autre fois. En 1917, Stravinsky réalise son premier cylindre pour Pleyel. Il en fera jusqu'en 1927, adaptant même ses œuvres anciennes pour piano Pleyela, afin, je cite, que le public puisse se faire une juste idée de mes intentions. Seuls les perfectionnements du gramophone lui feront abandonner cette activité chronophage. Il n'est pas toujours seul pour réaliser ses enregistrements rudimentaires. Germaine Taillefer témoigne.
J'avais fait une espèce de réduction et alors à ce moment-là, on commençait à faire des rouleaux pour les pianos mécaniques et c'était les pianos Pleyel qui organisaient ça. Alors, il m'avait demandé, vous ne voudriez pas jouer avec Stravinsky? J'ai dit, moi je veux bien, mais c'est très difficile. Et Stravinsky, mais non, vous ferez ça très bien. On va le faire tous les deux à quatre mains, et on va enregistrer on fait d'abord un enregistrement en perforé, puis après il corrige toutes les fausses notes. Mais alors c'était des séances épiques, c'était effrayant, parce qu'il hurlait, Stravinsky, hurlait. Plus fort, tu ferais taper. Ah, ah, ah. Un véritable lion au piano. Et moi j'avais les doigts en sang, je n'en pouvais plus. Chaque fois que je sortais de là, je ne pourrais plus rester debout, tellement j'étais fatiguée, surtout les doigts saignants de tous les côtés, parce qu'il me faisait taper, me donnait des coups de poing sur les mains pour jouer plus fort, plus vite. C'était effrayant.
Octobre 1917, en Russie, c'est la prise du pouvoir par les bolcheviks. La révolution de février déjà avait chamboulé Stravinsky. Ramu raconte qu'il avait même envisagé d'y retourner. « Il va se passer des choses », disait-il. « La vraie Russie va enfin paraître au monde. Une Russie paysanne, avant tout chrétienne, la seule terre chrétienne d'Europe, enfin débarrassée de la bureaucratie allemande, du libéralisme anglais, avec son scientisme et de la croyance niaise des intellectuels dans le progrès. » La suite des événements le rend d'abord dubitatif, bientôt franchement amer. La perte de ses droits et de ses biens russes n'y est pas pour rien, on le comprend. Quelques semaines après, il déclare au journal de Genève « Je me sens humilié, humilié dans mon patriotisme, la Russie bafouée et ses marchands dans le temple ». Fin 1917, de quelques déchets récupérés de renards et de noces, il fait ses soucoupes. Drôle de titre pour ses chœurs qui le sont fort peu drôles. Le 25 mars 1918, Igor apprend la mort de Claude Debussy. Il couvre sa femme et sa fille de condoléances, comme toujours chez lui un peu cérémonieuse, mais sincère. Les deux hommes se sont vraiment aimés, à leur manière cinglante. En témoigne ce portrait affectueux et ironique que Debussy faisait de son ami 2 ans auparavant. Stravinsky dit « mon oiseau, mon sacre » comme un enfant dirait « ma toupie » ou « mon cerceau ». Et c'est ça, exactement. Un enfant gâté qui parfois met les doigts dans le nez de la musique. Vieux, il sera insupportable, c'est-à-dire qu'il ne supportera aucune musique. Mais pour l'instant, il est inouï. Il fait profession d'amitié pour moi, parce que je l'ai aidé à gravir à un échelon de cette échelle du haut de laquelle il lance des grenades qui n'explosent pas toutes. Musicalement, il y a eu entre les deux compositeurs une façon d'aller-retour franco-russe. Toute une part de Debussy est née avec Tchaïkovski et Moussorgski, toute une part de l'harmonie stravinskienne vient de France. Conséquence secondaire, comme après la disparition de Rimsky-Korsakov, Igor commence à envisager un grand tombeau en hommage à son ami Claude de France. Là encore, on en reparlera. Depuis 4 ans, la guerre n'offre que des moyens limités pour monter des spectacles. Pourtant, Igor a besoin de gagner sa vie. Il est chargé de famille, avec femme, mère et 4 enfants. En ce début d'année, personne ne sait encore quand le conflit mondial s'achèvera. Avec Ramu, ils ont soudain une idée. Pourquoi ne pas faire simple ? Un opéra de chambre, pour une petite salle, public réduit, peu d'instruments, 2 ou 3 personnages, une pièce de circonstance donc, c'est-à-dire de guerre. Et même si la guerre n'en est pas le sujet principal, après tout, c'est l'histoire d'un soldat. De la manière dont l'écrivain le raconte, l'histoire du soldat n'est rien d'autre qu'un merveilleux petit bricolage. Chacun vient avec ses idées, on échange. Le décorateur, René Aubergenois, brosse les décors dans un garage, par terre. Stravinsky vient dormir régulièrement chez lui. Le fils de la maison, Fernand, devenu adulte, raconte.
Quand il venait à Lausanne, chez nous, il ne voulait pas prendre le dernier train du soir vers Morges, qui est à côté. Donc il couchait dans mon lit et moi je couchais sur un sofa. Et c'est là que j'ai entendu toute l'histoire du soldat, parce que lui, il jouait du piano presque toute la nuit, n'est-ce pas ? Et c'est là aussi que je regardais le verre de vodka de Stravinsky qui était sur le piano droit et qui petit à petit partait vers la gauche ou vers la droite. Et j'attendais qu'il tombe avec une impatience, hein, jamais satisfaite. Il y avait toujours l'énorme main de Stravinsky qui prenait le verre presque au vol. C'est un souvenir d'enfance d'avoir entendu l'histoire du soldat avant qu'il ne soit produit.
À propos, le jeune Aubergenois nous révèle une particularité du comportement stravinskien.
On nous avait toujours dit, ne mange jamais comme Igor. Igor mange comme un cochon, voilà, le cochon revient. Mais il crachait tous les arêtes de poisson à gauche et à droite. Et nous le regardions pour bien savoir comment il fallait pas faire, et naturellement nous apprenions à le faire.
Dans l'histoire du soldat, tout dépend de la pénurie jusqu'au choix des 7 instruments. À tous les niveaux, c'est de l'économie de guerre. Plus de fosses ni de coulisses, pas d'artifices scéniques. Les instrumentistes traités comme des personnages à part entière, visibles d'un côté de la scène. Les répétitions sont très amusantes. Igor aime danser, il invente des mouvements. Il faudrait pas trop le pousser pour danser lui-même le rôle du diable. On trouve quand même du beau monde pour cela. C'est Jean Villard qui fera le diable et Ludmila Pitoev dansera la princesse. Les musiciens venus de Genève ou de Zurich sont un peu surpris par une écriture qui bouleverse l'esthétique même de leurs instruments. On est loin, très loin, de la grande orchestration à la russe qui avait fait le succès de l'Oiseau de feu seulement 8 ans plus tôt.
Il ne faut pas vouloir ajouter à ce qu'on a ce qu'on avait. On ne peut pas être à la fois qui on est et qui on était. On n'a pas le droit de tout avoir, c'est défendu. Un bonheur est tout le bonheur. Deux, c'est comme s'il n'existait plus. J'ai tout, pense-t-il. Mais un jour, elle lui dit : Je ne sais rien encore de toi, raconte-moi, raconte-moi un peu de toi. C'est que c'est dans le temps, tout là-bas, dans le temps que j'étais soldat, tout là-bas chez ma mère dans mon village, loin, bien loin, et j'ai oublié le chemin. Si on y allait, c'est défendu. On sera vite revenu et personne n'en saura rien. Elle le regarde et lui a dit : Tu en as bien envie, toi aussi ? Que si, que si, que si, que si aussi, je vois bien, a-t-elle dit. Et il disait : Venez ici. Mais elle, pas avant que vous n'ayez dit oui. Et alors il a réfléchi et il se disait : Pourquoi pas ? Peut-être que ma mère me reconnaîtra cette fois. Elle viendrait habiter avec nous. Et comme ça, on aurait tout. J'aurais tout ce que j'avais avant et tout ce que j'ai à présent. Ils sont partis. Ils sont prêts d'arriver. On commence à voir le clocher. Voilà à présent la borne frontière. Elle est restée en arrière. Elle l'appelle. Il s'est retourné. Thank you.
le final de l'histoire du soldat d'Igor Stravinsky, à nouveau dans la version incontournable de Charles Dutoit.
C'est l'été sur France Musique. Igor Stravinsky, chronique de sa vie, Lionel Esparza.
La création de l'histoire du soldat à Lausanne en septembre 1918 se déroule fort bien. Joli succès. On a prévu une tournée façon théâtre ambulant dans des petits villages de Suisse. Malheureusement, l'épidémie de grippe espagnole frappe toute la distribution, y compris Stravinsky. L'aventure du soldat s'interrompt prématurément. Au moins une bonne nouvelle vient réjouir les convalescents le 11 novembre 1918. Ce jour-là, à 11h du matin, alors que sonnent les cloches de l'armistice, Igor met un point final à une petite pièce, Ragtime, écrite, je cite, dans la sonorité du piano Bordel, ici tenu par le cymbalum. Deux ans plus tôt, Stravinsky avait découvert le jazz à peine naissant grâce à des disques offerts par Ansermé. Il veut, je cite, solenniser une danse nouvelle en l'introduisant au concert, comme on l'avait fait jadis pour le menuet, la valse ou la mazurka. Plus que du jazz, c'est un essai de portrait du jazz façon archétype. Les années de guerre s'achèvent par un pied de nez. Les mois qui suivent sont pour Stravinsky, comme pour tout le monde, un peu indéterminés. Comment reprendre pied? Comment repartir après la guerre? D'autant que la grippe espagnole, épuisante, interdit tout travail important. Comme souvent, quand le présent semble bouché, Igor revient vers le passé. Il se lance dans la réduction de l'oiseau de feu en suite d'orchestre, travail plus systématique et plus simple qu'une vraie création, mais qui lui prendra tout de même 6 mois. Pour le philanthrope Werner Reinhardt, qui avait financé l'histoire du soldat et était par ailleurs clarinettiste amateur, il écrit 3 petites pièces merveilleuses. Et le 28 juin 1919, achève Piano Rag Music, en pensant, dit-il, à Arthur Rubinstein, à ses doigts agiles, adroits et forts. Symboliquement, cette période s'achève avec l'ultime avatar de l'opéra qu'il aura occupé durant une décennie entière. Le 6 décembre 1919, Ernest Ansermé crée à Genève le chant du Rossignol, dont Igor dira « Cette exécution où tout était d'un soigné et d'un fini parfait me procura une grande jouissance. » De quoi refermer définitivement ces sombres années de guerre. Thank you. Le final du chant du Rossignol d'Igor Stravinsky par Pierre Boulez et l'orchestre de Cleveland. C'était Igor Stravinsky, chronique de sa vie, une émission de Lionel Esparza, préparée par Flora Sternadel, mise en page par Christine Amado, recherche Ina Haute-Vassan, à la technique aujourd'hui, Valentin Azan-Zielinski. Je vous retrouve dimanche prochain à 11h pour notre 4e épisode, Les années folles.
À réécouter sur francemusique.fr.